Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. La très controversée directive sur le secret des affaires devait être adoptée là, cette semaine, le 17 mai, par les ministres des 28, ici à Bruxelles, mais son adoption a été reportée de quelques jours. A priori, ce sera pour le 25 mai, à cause d'un problème de traduction sur la question des lanceurs d'alerte. Je m'explique, la directive, elle a été rédigée en anglais et elle précisait que les lanceurs d'alerte pourraient dénoncer les wrongdoings. C'est un mot en anglais. Alors, on a fait nos recherches dans le cadre de la préparation de cette émission. En gros, on a tapé dans Google traduction wrongdoing. On tombe sur méfait. Mais les linguistes du Parlement européen, eh bien, parmi eux, il y a eu débat. Ils se sont dit, est-ce qu'il faut traduire ça par faute? Est-ce qu'il faut traduire ça par malversation? Finalement, ils auraient plutôt opté pour comportement inapproprié. Du coup, eh bien, il y a pas mal de gens qui ont dit, oui, dans ce cas, les lanceurs d'alerte pourraient dénoncer un harcèlement au bureau, mais pas un détournement de fonds. Voilà, on va parler des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant de Context. En un mot, cette directive sur le secret des affaires qui devait être adoptée cette semaine, pourquoi elle est aussi controversée?
Elle est controversée parce qu'elle est très floue. En fait, c'est une directive, ça veut dire qu'elle est rédigée pour plaire aux 28 États membres. Du coup, contrairement à un règlement où là c'est béton, on laisse des marges d'appréciation aux États membres pour la transposition. Ce qui fait qu'effectivement, les définitions sont un peu vagues, les protections sont un peu vagues. Donc finalement, tout va se jouer aussi dans la façon dont les États membres vont transposer au niveau national. Et là-dessus, il faudra être très vigilant.
Bonjour Philippe Lambert. Bonjour. C'est également un habitué de l'émission. Vous êtes eurodéputé vert, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Vous êtes à l'initiative. Alors, on va y revenir. Enfin, vous avez mis sur la table un projet de directive spécifique aux lanceurs d'alerte.
Exactement. Parce que le texte sur le secret d'affaires, en fait, protège d'abord les entreprises. Et c'est pas seulement que le texte est flou, mais il a une définition du secret d'affaires qui est extrêmement large. Autrement dit, une entreprise décide que le fait qu'elle emploie des enfants dans le sud Kivu est un secret d'affaires, eh bien c'est un secret d'affaires, il est interdit de le révéler. Et donc nous voulons en fait que la transparence prévale.
Vous partez dans les extrêmes quand même. Là.
Non, ouais. Absolument
pas. Parce que là on parle plutôt des stratégies commerciales et des choses comme ça.
Ah non, on parle de tout. Est secret d'affaires ce que l'entreprise décide est un secret d'affaires. Bon. Et donc ça ne va pas.
Bonjour Didier Loisel. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous nous venez de Dijon à Bruxelles. Oui. Pour partager avec nous votre expérience. Vous connaissez très bien le monde des lanceurs d'alerte en France et vous êtes le président de la CNETH, c'est la Coordination Nationale des Entreprises de Taille Humaine. Comment devient-on lanceur d'alerte?
Alors, comment on devient lanceur d'alerte? C'est-à-dire qu'on est un poste clé, on est observateur, on est bien dans sa peau et d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va plus dans un engrenage. Et à un moment donné, il y a un problème de conscience qui arrive. En se disant, qu'est-ce que je fais? Je suis mal, je me tais, je dénonce, je m'en vais. La plupart s'en vont ou se réfugient. Quelques-uns décident de devenir lanceurs d'alerte. Et là, ils rentrent dans l'enfer.
Ils rentrent dans l'enfer parce qu'ils ne sont pas protégés.
Ils rentrent dans l'enfer parce qu'ils ne sont pas protégés, parce que personne ne va les comprendre. On va dire, pourquoi toi, tu dis ça? Tais-toi. Vous voyez, c'est la première chose. Tais-toi.
Et du coup, personne ne veut les embaucher derrière. Ils peuvent se faire licencier, etc.
Et j'ajoute que c'est un monde très vaste. Je rejoins ce que vous venez de dire. Derrière le mot lanceur d'alerte, c'est un monde très vaste. On y reviendra.
Comment protéger les lanceurs d'alerte? Faut-il le faire au niveau européen, comme le suggère Philippe Lambert, qui est parmi nous? Ou bien faut-il le faire plutôt au niveau national? On va voir. Par exemple, en Irlande, c'est la législation qui protège le mieux les lanceurs d'alerte. Mais en revanche, il y a beaucoup d'autres pays en Europe où il n'y a absolument aucun cadre légal. Comment protéger les lanceurs d'alerte? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Comment protéger les lanceurs d'alerte? Déjà, Didier Loisel, en France, est-ce qu'il existe un cadre bien spécifique?
Il y a des tentatives qui ont été faites, notamment sous l'impulsion de Transparency International, qui a essayé de faire émerger une législation. Jusqu'à présent, je considère, moi, sans succès. Mais ensuite, bon, ça a été spécifique dans tel ou tel domaine. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un statut protecteur du lanceur d'alerte. Autrement dit, une cellule d'écoute très large pour pouvoir voir si c'est bien un lanceur d'alerte. Et ensuite, si c'est bien un lanceur d'alerte, il faut le protéger. Et le sujet traité doit revenir ensuite aux responsables politiques qui perdent la main et aussi aux médias. Parce que il ne faut pas que le lanceur d'alerte soit celui qui, parce qu'il a fait une alerte, qui va régler le problème. C'est pas son job. Hein, c'est pas. Il dit, moi j'ai vu ça, ça fonctionne mal, il faut régler le problème. Hein, je veux dire, donc, d'où la nécessité d'enquête, la justice, etc. Je veux dire, il faut dire, et c'est un contre-pouvoir, un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui dit, il me semble que mes dirigeants, quand c'est une entreprise, ne se rendent pas compte, ou nos politiques ne se rendent pas compte, et moi j'ai le devoir de le dire. Bon, sachant que la plupart se taisent. Hein. Mais il y a un autre public, parce qu'on est BFM Business, je voudrais le dire. Les meilleurs lanceurs d'alerte, ça devrait être des chefs d'entreprise à taille humaine, parce qu'ils savent tout. Mais là, 99,9% se taisent. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, si je révèle que je subis ceci, cela, dans la corruption par exemple...
Ils sont grillés.
C'est foutu. Mmh. Pour moi, je suis mort. Donc, je me tais. Participe peut-être pas, mais je me tais.
Si on regarde, on va y revenir, le cas d'Antoine Deltour, hein, de oui. PricewaterhouseCoopers, dans l'histoire des LuxLeaks, donc cet ex-salarié français au Luxembourg. Il est poursuivi actuellement et il est passible de 18 mois d'emprisonnement avec l'un de ses collègues. Il y a également un journaliste impliqué dans cette fuite de 30 000 documents révélant les pratiques au Luxembourg en matière de rescrits fiscaux, donc ces arrangements entre l'autorité fiscale luxembourgeoise et des grandes entreprises. Antoine Deltour, il est poursuivi pour vol, divulgation de secrets d'affaires, violation de secrets professionnels, blanchiment et fraude informatique, parce qu'il avait copié sur son disque dur des centaines de rulings, donc les rescrits fiscaux. Vous, Philippe Lamberts, donc, vous avez pris l'initiative. D'habitude, c'est plutôt à la Commission européenne prendre l'initiative. C'est dans le traité. Le Parlement européen n'a pas cette prérogative. Mais vous, vous êtes dit... on va mettre sur la table un projet de directive pour protéger les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il est d'abord basé sur un article du traité qui parle de la protection des travailleurs. En fait, c'est la base légale que l'on a trouvée. Et donc, travailleurs du secteur privé ou du secteur public, donc clairement, des gens qui n'ont pas un statut de travailleurs ne sont pas couverts par le texte. Mais donc, le but est d'assurer une protection à des travailleurs qui feraient des révélations sur le mode de fonctionnement de leur administration ou de leur entreprise et des révélations qui mettent en lumière le fait que l'intérêt général soit blessé par des actions. Et donc, le but est de protéger ceux qui révéleraient ce genre d'actions. Et typiquement, ce que Antoine Deltour a fait, lui était un salarié du secteur privé. Il a révélé les petits arrangements fiscaux entre le Grand-Duché de Luxembourg et environ 300 multinationales. Et ce faisant, il a fait avancer l'intérêt général européen, puisque depuis ces révélations, eh bien, la Commission européenne s'est sentie obligée de mettre un certain nombre de propositions sur la table.
La commission présidée par le
Jean-Claude Juncker, évidemment, qui lui n'est pas poursuivi et qui jusque maintenant a payé zéro prix politique pour les petits arrangements dont il a été le parrain au Grand-Duché pendant des dizaines d'années. Et donc, il y a là, quelque part, deux poids, deux mesures.
Mais alors, ce que vous entendez par travailleurs, ce sont à la fois les personnes salariées d'une entreprise, mais aussi les stagiaires ou
bien
même
sûr.
Les retraités.
Bien sûr.
Donc, en gros, les gens qui quittent une entreprise, qui n'ont plus rien à perdre,
voilà,
globalement, en termes d'avancement et autres,
protégés aussi.
Pourraient...
Pour autant que ce qu'ils font comme révélation... est fait dans le cadre de la défense de l'intérêt général.
Et ça,
autrement
décide,
dit, la délation.
Qui en décide ?
Ah ben ça, c'est le tribunal qui va en décider.
D'accord.
Mais la charge de la preuve sera au plaignant. Autrement dit, l'entreprise ou l'administration qui se retournerait contre le lanceur d'alerte devrait faire la preuve que les révélations qui ont été faites l'ont été dans le but de nuire personnellement à une personne dans le cadre d'une vendetta personnelle et pas dans le cadre de la défense de l'intérêt général. Mais la charge de la preuve repose sur le plaignant. Or, dans le texte sur les secrets d'affaires, que voit-on ? Eh bien, oui, il y a un petit peu de protection pour les lanceurs d'alerte et pour les journalistes, mais c'est à eux de faire la preuve de leur bonne foi. Et donc, si vous êtes à la tête d'un journal relativement mal financé, c'est le cas de beaucoup d'organes de presse aujourd'hui, allez-vous prendre le risque de vous exposer à des poursuites en justice de la part d'entreprises si vous révélez des choses.
Et parole bon, au journaliste de contexte, Jean-Sébastien Lefebvre.
Là, je ne suis pas d'accord avec M. Lamberts, parce qu'effectivement, dans la version de base de la Commission européenne qui a été proposée en 2013, la charge de la preuve était pour la presse. Ça veut dire qu'il fallait prouver l'intérêt légitime. Il y avait le mot légitime, je ne sais plus comment il l'avait tourné. Oui. Sauf que ça a sauté, justement, pendant les discussions entre le Parlement et le Conseil. Et du coup, le terme a sauté. Résultat, aujourd'hui, il faut juste que ça soit dans l'exercice de la liberté d'expression, de liberté de la presse.
Il sera apprécié par le juge.
Bien sûr, mais comme vous dites, il y a toujours des conditions. Le juge
devra
dire...
Mais vous vous exposez à des poursuites.
Mais donc, vous êtes toujours exposé à des poursuites. Il y a toujours une possibilité pour une entreprise de dire, là, je vais y aller. Après, il est dit aussi dans la directive, l'article 5, que quand c'est dans le cadre de la liberté de la presse, la poursuite lancée par l'entreprise doit être rejetée. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de procès ni de procédure, ça va être rejeté. Après, la question, c'est est-ce que les dispositions nationales vont le permettre ? C'est-à-dire qu'en France, on a une loi assez protectrice, 1881, on s'en sort plutôt bien. Au Luxembourg, le problème, c'est qu'on a vu avec le procès Deltour, c'est que la loi est extrêmement mal faite, les sources sont assez mal protégées. Quand on imagine que dans le cas des LuxLeaks, l'entreprise PwC a elle-même fait l'enquête pour savoir qui avait fait la fuite, on peut se dire c'est normal, l'entreprise a envie de savoir.
Vous avez porté plainte pour vol.
Et ensuite, tout a été donné à la justice, et à aucun moment...
Le nom d'Antoine Deltour
n'était pas au début.
N'était pas sorti.
N'était pas sorti. Et en France, on aurait eu une protection des sources en disant il a servi pour la justice. Là, on a rien eu. Il s'est retrouvé exposé, le journaliste exposé, et il a eu droit à un cours de journaliste par le procureur de
Didier Loisel.
Oui, alors moi j'ai envie de réagir, et il y a un maître mot que je vous avais dit, c'est l'intérêt général à un moment donné. Le lanceur d'alerte, il est confronté à ça. Il dit, ce que je vais dire, c'est pas mon intérêt personnel, c'est l'intérêt général. Parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. D'une part, dénonciation et délation. On dénonce, c'est pas de la délation. Et on dénonce pas parce que je suis concerné moi-même, je peux l'être. Mais on dénonce parce que c'est l'intérêt général. Voilà, qui est compromis. C'est très important d'insister là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que les salariés. Ça peut être l'entreprise elle-même qui est confrontée. L'entreprise qui est confrontée, qui a un marché, qui d'un seul coup est confrontée entre États, va dire, moi là, je suis confronté à une corruption que je connaissais pas dans l'État où j'exerçais. L'État voisin, je suis confronté. Qu'est-ce que je fais ? Je suis mort si je le dis. Mais par contre, sa révélation, elle va peut-être être essentielle parce que on va découvrir des choses. Donc il faut que c'est une notion à la fois restrictive sur la possibilité de le faire, mais large au niveau du public, mais dans le domaine aussi bien public que privé.
Comment protéger les lanceurs d'alerte ? Voilà le thème de notre discussion aujourd'hui dans 500 millions d'Européens. À tout de suite après un court message publicitaire.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous parlons aujourd'hui des lanceurs d'alerte, les whistleblowers, ceux qui sifflent dans leur sifflet et qui dénoncent des situations malhonnêtes au sein d'une entreprise, par exemple. Pour en discuter, l'excellent Philippe Lamberts, eurodéputé belge, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen, Jean-Sébastien Lefebvre de Context, le non moins excellent correspondant du journal en ligne, et Didier Loisel, qui nous vient de Dijon pour cette émission. Didier Loisel, vous êtes le président de la Coordination nationale des entreprises à taille humaine. Vous connaissez très bien le monde des whistleblowers, des lanceurs d'alerte. Et puis d'ailleurs, vous avez participé à la rédaction d'un rapport d'information de l'Assemblée nationale, 30 propositions pour l'avenir de la justice commerciale. Je le montre à l'antenne, mais bon...
Qui est une justice d'exception en Europe.
Qui est une justice d'exception en Europe. Très bien. Concrètement, comment on fait avec ces lanceurs d'alerte ? On parlait du cas d'Antoine Deltour dans l'affaire des LuxLeaks, l'ancien salarié de PwC, PricewaterhouseCoopers, qui a été d'ailleurs auditionné ici au Parlement européen dans le cadre de la commission spéciale taxe. Il a été auditionné par Alain Lamassoure, l'eurodéputé des Républicains. Alain Lamassoure qui lui a dit... Je le cite, vous avez initié au fond un nouveau type de citoyenneté en décidant de violer la loi et en subissant les conséquences et en provoquant un débat. C'est intéressant, ça, Philippe Lambert. Est-ce devenu un acte citoyen de violer la loi quand on est un lanceur d'alerte ?
Lorsque la loi ne défend pas l'intérêt général, je pense qu'elle doit être dénoncée. Et donc, c'est ce qu'Antoine Deltour a fait. Jean-Claude Juncker avait beau dire...
À travers la violation notamment du secret professionnel.
Bien sûr. Mmh. Et donc Jean-Claude Juncker avait beau dire que tous ces rescrits fiscaux qu'il avait octroyés étaient légaux, il n'en reste pas moins que le même Jean-Claude Juncker, quand ses révélations ont été rendues publiques, eh bien, il a disparu pour 6 jours. Autrement dit, c'était peut-être légal, mais c'était un petit peu honteux, ce qui a fait qu'il a disparu. Et donc, après ça, il a dû un peu baragouiner des excuses, enfin, une explication selon laquelle il n'a fait que son devoir. Et en fait, oui, pour amener ces révélations sur la table et qui montrent que le droit européen est un droit qui ne défend pas l'intérêt général, eh bien, il a fallu enfreindre la loi.
Jean-Sébastien.
C'est parfois nécessaire.
Mais en fait, le paradoxe dans lequel on est actuellement, c'est que finalement, est-ce qu'ils ont vraiment enfreint la loi? Parce que la même Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker a dit, nous, les documents des LuxLeaks, on est très contents, on va les prendre. Et on va les utiliser pour nos enquêtes. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne, toujours présidée par Jean-Claude Juncker, est en train de faire toute une série d'enquêtes pour vérifier finalement si ces rescrits fiscaux ne sont pas illégaux, non pas dans le sens où c'était pas le droit national, mais du droit européen, voilà. Où ce taux artificiellement bas d'imposition est une aide d'État déguisée. Et résultat, finalement, est-ce qu'il a violé la loi, M. Deltour ? On ne sait pas trop, finalement. Est-ce que ce n'est pas PwC via
la loi sur le secret professionnel, sans doute.
Ça, sans doute.
Mais par contre, le Grand-Duché a probablement violé
voilà,
le droit européen.
Finalement, qui est illégal, qui est dans la légalité ?
Didier Loisel.
Au moment où bon nombre de politiques en France perdent pied, ce qui fait l'ascension des forces extrêmes, je veux dire qu'il est bon qu'il y ait un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, à condition, c'est celui des lanceurs d'alerte, qu'il soit protégé. Ça aurait un double effet, de replacer le politique à l'endroit où il devrait être, il a perdu sa place. Et puis, la deuxième chose, c'est de freiner les excès. Parce que celui, notamment en matière de corruption financière, il se dirait, attention, je fais ça, mais il n'y en a pas un autour de moi qui va balancer le truc. Ouais. Et là, on devient intelligent, très intelligent, je veux dire même, pour les grands excès. Et puis, je pense que les États-Unis et le Canada, ce n'est pas un modèle automatiquement pour dire « je ne fais que du social ». Ils se sont dotés d'une législation pour les lanceurs d'alerte, mais aussi pour pouvoir faire des class action, actions collectives. Donc je pense qu'on a besoin au niveau de l'Europe de mettre au point des outils nouveaux.
Est-ce que vous avez autour de vous, Didier Loisel, donc vous côtoyez beaucoup, j'ai même pu participer grâce à vous à une réunion où j'ai rencontré beaucoup de lanceurs d'alerte qui partagent leur expérience. Est-ce que vous avez l'exemple d'un cas d'une personne dont la vie a été foutue parce que faute d'encadrement, ou d'un cas de quelqu'un qui est venu vous voir en disant j'aimerais bien tirer la sonnette d'alarme, mais j'ai 3 enfants, j'ai 3 bouches à nourrir et je veux pas me griller.
Je vais aller très vite. Un premier, mais qui va très vite, c'est Monsieur Dalberg, qui a passé sur une émission concurrente, donc qui a dénoncé sur le médicament, qui a perdu son job, qui avait une mission, un poste international, et qui a, bon, depuis, écrit un bouquin. Il a eu du mal à retrouver du travail, on le côtoyait, et aujourd'hui, heureusement pour lui, il a retrouvé un travail. Mais il a eu un courage. Pourquoi ? C'était des médicaments qui tuent. Il l'a dit, donc, Bernard Dalberg.
Quels sont les risques avec cette directive secret des affaires ? Didier Loisel parlait notamment des questions médicales. C'est quoi le problème avec si cette directive secret d'affaires est bel et bien adoptée la semaine prochaine ? Ça veut dire qu'un laboratoire ne peut ne pas divulguer, du coup, des résultats d'essais, même si ça entraîne la mort d'une personne ? C'est un exemple.
Par exemple, mais on a un cas très, très pratique maintenant. Le glyphosate, le principe actif du principal herbicide utilisé.
Lambert est eurodéputé des Verts.
Oui, absolument. Et donc le glyphosate est le principe actif du principal herbicide utilisé dans l'agriculture partout dans le monde. Eh bien, il y a l'Agence européenne de sécurité alimentaire prétend, contre l'Organisation mondiale de la santé, que le glyphosate n'est pas nuisible, n'est pas un cancérigène probable. Il se base là-dessus sur un certain nombre d'études. Jusque-là, rien à signaler. Sauf que quand on demande accès à ces études, il dit non, ce sont des études qui ont été produites par exemple Monsanto, le producteur du même glyphosate, et bien sûr, secret d'affaires, nous ne pouvons pas avoir accès à ces études. Et donc là, on a un véritable problème de politique publique. Comment est-ce qu'on peut baser des avis, des décisions politiques sur des études non publiées, et c'est-à-dire non contestées, non contre-évaluées par d'autres spécialistes.
Il faut bien protéger quand même le savoir-faire Là, en l'occurrence, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dès qu'on touche à Monsanto, c'est
Ici, ce sont des études de toxicité. Mmh. Ce n'est pas la méthode de fabrication du glyphosate. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est simplement des études de toxicité. Et on n'y a pas accès.
Jean-Sébastien.
Mais là, dans ce cas-là, moi, c'est pareil. Dans la directive, il y a une disposition qui dit qu'une entreprise ne peut pas s'opposer à la demande d'une autorité administrative au nom de la santé, de la protection des citoyens, etc. Donc, si, effectivement, Monsanto continue à dire « Moi, je ne veux pas le donner aux députés ou je ne veux pas le donner à qui que ce soit », il suffit qu'une autorité nationale ou l'agence dise « Je vous oblige » ou la commission, je ne sais pas qui est juridiquement responsable dans le cas de l'Union européenne, disent « Je veux le test complet » et ils sont obligés légalement. Après, ils peuvent tenter un procès, mais ils vont le perdre puisque c'est écrit aussi noir sur blanc. Donc, il y a aussi les entreprises qui jouent, qui mettent tout dans le secret des affaires, mais encore une fois, il faut le contester, leur dire que c'est pas comme ça, que tout
il y a un lobbying important de la part des intérêts économiques
importants.
À Bruxelles.
C'est Business Europe, le MEDEF, enfin toutes les fédérations patronales, et d'ailleurs uniquement elles, soit dit en
Business
passant,
Europe,
uniquement
c'est le patronat européen.
C'est le patronat européen. Ils étaient les seuls à faire un lobbying intense pour cette directive secret d'affaires, mais ils étaient seuls. Ils étaient seuls, mais c'était intense. Autrement dit, on a fait une législation pour protéger une catégorie d'acteurs, à savoir les grandes entreprises qui ne veulent pas qu'on révèle leurs petits arrangements fiscaux, leurs petits arrangements en termes de chaînes de fabrication, y compris les plus contestables, quand on parle par exemple de minerais de conflit, des choses pareilles. Et donc, cette législation n'avait pas lieu d'autre.
Ça, c'est le volet noir, mais ça peut ouvrir la porte aussi à un grand n'importe quoi et à un grand déballage. C'est ça la question. Vous parlez, vous, par exemple, du travail des enfants, ou vous parlez, c'est ce que vous disiez
dans
la production,
il y a des choses inacceptables. Puisse invoquer le secret d'affaires de manière abusive. Or, le texte le permet. Et donc, il faut avoir une conception restrictive du secret d'affaires et pas extensive.
Didier Loisel, est-ce que vous avez une idée du modèle en Europe? On parlait de l'Irlande tout à l'heure, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour conclure. En Irlande, les législations sont déjà très protectrices. En revanche, il y a d'autres pays comme l'Espagne, la Grèce, la Bulgarie, la Finlande, le Portugal ou la Slovaquie, où il n'y a rien pour protéger les lanceurs d'alerte.
Oui, alors, c'est un impératif, parce que dans des pays démocratiques, il faut des contre-pouvoirs, et c'est un contre-pouvoir, et ça aura des effets de régulation. Et je rebondis en même temps sur le secret des affaires. Il y a un domaine où c'est à l'inverse, où j'aimerais qu'il y ait le secret des affaires. C'est quand une entreprise a difficulté, vous pouvez immédiatement vous créer un incident, avec toute la bulle financière, je veux dire, qui est derrière, tout le monde a accès à l'information. On détruit l'entreprise, on y crée un événement, un incident. Le chef de l'entreprise ne le sait pas encore. Et ça permet des actes de prédation derrière. Quand on fait une information, au moins de consulter le chef d'entreprise avant, ce qu'on ne fait pas. Et si bien qu'on prépare le terrain pour des actes de prédation. Je peux vous dire que c'est un sujet qu'on connaît parfaitement bien. Autrement dit, on fragilise l'entreprise pendant qu'il y a une OPA qui va s'organiser ailleurs.
Voilà. C'est l'idée de ménager la chèvre et le chou, à la fois l'intérêt général et l'intérêt
des affaires et
des entreprises. Et souvent, protéger l'intérêt des entreprises, on est sur BFM Business, c'est protéger l'intérêt général. Juste après le journal, on va avoir droit aux coulisses de l'Europe de Politico, ainsi qu'à la revue de presse européenne de Courrier International. Maya de la va nous parler des Hongrois qui seraient devenus les parias de l'Union européenne. Et puis dans sa revue de presse, Eric Scholl va revenir sur ses LuxLeaks d'un point de vue luxembourgeois. Tiens, c'est intéressant, on va également aller en Espagne, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. A tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens avec Euranet+. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours ici à Bruxelles, en compagnie de Philippe Lamberts, eurodéputé belge, président du groupe des Verts au Parlement européen, Jean-Sébastien Lefebvre de Context et Didier Loisel de la Coordination nationale des entreprises à taille humaine et qui travaille beaucoup avec les lanceurs d'alerte. Mais il m'a dit, ne parlez pas de tout ça, dites juste que je suis un homme de terrain. Bon voilà, c'est un homme de terrain, Didier Loisel. Et bonjour Maya de la Baume de Politico pour vos coulisses de l'Europe. De quoi allez-vous nous parler? Tiens, les Hongrois. Les parias de l'Europe.
Oui, ils sont rejetés.
Pourquoi ils sont rejetés, les Hongrois?
Parce qu'ils se sentent tributaires des relations compliquées de leur président Orban avec les institutions européennes.
D'accord.
Donc ils sont un peu relégués au second plan.
Ah d'accord. Voilà. Viktor Orban, le nationaliste, ultra-conservateur.
Ouais.
Le Hongrois qui est en poste depuis quoi? 5-6 ans. Donc vous voulez dire que si un pays met à sa tête, élit un ultranationaliste, du coup,
ça se ressent
on peut
un
devenir
peu, oui,
des parias à travers l'Europe.
Bien sûr.
Il faudrait y faire attention. Il faudrait pas que la tentation en France puisse avoir des répercussions par la suite. Nous allons être rejoints dans quelques minutes par Eric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International, qui, dans le cadre de sa revue de presse européenne, eh bien, va revenir sur le premier thème de cette émission, à savoir les LuxLeaks, l'évasion fiscale et les lanceurs d'alerte. Et puis, on va aller un peu en Espagne, on va aller en Allemagne, on va aller au Royaume-Uni. Voilà, demander le programme de 500 millions d'Européens, la deuxième partie, pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Dans les coulisses de l'Europe avec Maya Delabaume de Politico, pénétrons dans les tracas de nos amis les Hongrois à Bruxelles.
Oui, ils souffrent beaucoup les Hongrois à Bruxelles. Mmh. En fait, si on regarde la répartition des nationalités, notamment à la Commission, il y a très peu de Hongrois qui sont à des postes de direction à la Commission. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est le commissaire hongrois, qui s'appelle donc Tibor Navracsics, j'espère que je le dis bien.
Oui.
Navracsics, qui lui est donc commissaire en charge de la culture, éducation, jeunesse et sport. Et dans son pays, il a été vice-premier ministre, il était ministre des Affaires étrangères, et il fait vraiment partie du cercle très restreint de Viktor Orban. Donc c'est un peu... un poste un peu moins prestigieux. Et puis beaucoup de Hongrois disent que ils souffrent un peu justement d'être tributaires de leur président Orban qui n'a pas une très bonne réputation dans les institutions.
Globalement, la plupart des commissaires européens, ils ont occupé d'importantes fonctions. On pense à Pierre Moscovici, le commissaire français, il était quand même ministre des Finances en France.
Oui,
donc la plupart, on peut pas donner que des postes incroyables à la Commission européenne. Là, en l'occurrence, en plus, il s'était fait, je crois, il avait pris une petite fessée quand même, notre ami Tibor Navracsics, parce que quand il était arrivé en tant que commissaire européen hongrois, Jean-Claude Juncker lui a dit « Bon, toi, ce sera l'éducation, la culture, la jeunesse et les sports et la citoyenneté. Ah ben non, tiens, citoyenneté, on l'enlève du portefeuille parce que t'es hongrois.
Ouais. »
C'était ça la claque,
ouais,
hein, Philippe Lambert.
Tout à fait, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On ne pouvait pas donner la citoyenneté à un ressortissant d'un pays qui était vu, et je pense à juste titre, comme foulant aux pieds les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Ceci dit, c'est quand même un petit peu bon marché, parce que très franchement, ça ne coûte pas cher de faire ce genre d'affaires quand on n'engage pas contre la Hongrie des procédures, comme on le fait par exemple aujourd'hui à l'égard de la Pologne, qui est aussi dans le collimateur de l'Union européenne, mais là on engage une procédure particulière d'examen de défense de l'état de droit, comme on appelle ça. On ne le fait pas en Hongrie. Et pourquoi? Ah, parce que Viktor Orban a le bonheur d'appartenir à la famille politique d'une certaine Angela, qui, je pense, doit être chancelière en Allemagne.
Voilà, la famille politique du PPE, le Parti Populaire Européen, et l'Union Européenne qui n'est jamais à l'abri d'une ou deux contradictions, donc qui ne souhaite pas confier la citoyenneté à un pays qui bafoue les valeurs fondamentales de l'Union européenne, mais qui, en revanche, donne les affaires économiques et financières à la France et la surveillance des budgets à la France, qui est incapable de tenir ses comptes. Jean-Sébastien Lefebvre.
Ce qu'il faut voir, c'est aussi que les gens qui occupent les postes dans les directions générales de la Commission européenne reflètent aussi l'influence de chaque pays. C'est-à-dire que la France fait en sorte de placer ses hommes, l'Allemagne fait pareil, ses hommes et ses femmes d'ailleurs. Donc chaque pays fait ça. Donc c'est aussi le reflet d'une Hongrie, effectivement, qui est complètement marginalisée. Donc, ça paraît logique que les fonctionnaires finissent par payer les pots cassés. On en discutait juste avant l'émission. À l'inverse, il y a des pays qui n'arrivent pas à placer des gens parce qu'ils n'ont plus assez de fonctionnaires pour les faire monter. Les pays avec un petit fonds eurosceptique ou des gros doutes sur l'Union européenne, type les Pays-Bas par exemple, ils n'arrivent plus à faire rentrer assez de gens au sein de la Commission européenne pour après les promouvoir au haut poste.
Il y a plus d'envie d'Europe. C'est intéressant parce que d'ailleurs, la semaine dernière, nous étions avec ces Français qui ont choisi l'Europe. Mais un pays comme la Pologne, qui finalement a un petit peu le même profil maintenant que la Hongrie, avec ses lois liberticides, où il réforme la justice, la liberté de la presse, etc. Mais c'est plus compliqué depuis Bruxelles de taper sur le géant polonais, qui est quand même un mastodonte, hein, économiquement, surtout dans cette zone de l'Europe. C'est plus difficile de taper sur la Pologne que sur la plus petite Hongrie.
C'est plus difficile et surtout c'est un renversement de dynamique. C'est-à-dire que dans le gouvernement précédent et depuis 7 ans, la Pologne montait en puissance à Bruxelles. Elle gagnait du galon, elle s'imposait comme un peu comme l'Espagne, ça veut dire pas l'équivalent de la France, l'Allemagne ou l'Italie, mais comme une puissance de deuxième catégorie. Et là, changement de braquet, donc du coup, on est encore un peu dans l'expectative, mais en même temps, effectivement, il y a une procédure d'ouverture et d'ici peu, on devrait avoir le résultat de l'enquête de la Commission.
Maya ?
Non, puisque vous disiez aussi, c'est que Orban, il fait partie du PPE,
bien sûr.
Et les Polonais, eux, ils étaient avec Cameron, mais bon, on a du mal à les placer au Parlement européen. Ils ne font pas partie des gros groupes, en tout cas.
Donc, ils ne sont pas protégés. Donc, voilà. Didier Loisel.
Oui, je pense qu'il y a un vrai fossé qui est entre la perception de l'Europe, moi qui ne suis pas habitué, de l'Union européenne, et les gens de terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sujets fondamentaux qui donnent l'impression de ne pas être abordés. Bon. Et qui laissent le champ libre aux extrémistes, qui, eux, sont très proches du terrain, je peux vous dire aujourd'hui. Je vais prendre un exemple, le monde agricole. En France, c'est explosif, le monde agricole. C'est des quantités de suicides. Des choses comme ça. Donc, ils voient des grands personnages connus qui parlent de sujets très généraux et eux, ils se disent, quand ils se rendent compte, on ne nous écoute pas.
Je comprends, mais Didier Loisel, vous parlez du terrain. Le terrain européen, il fait 5 millions de kilomètres carrés. Là, en l'occurrence, on parle du terrain en Hongrie. Et évidemment, peut-être que ceux qui sont sur le terrain en Côte d'Or, ils ne se sentent pas trop concernés. En attendant, il faut quand même pouvoir traiter toutes les questions.
Les évolutions pourraient très bien être les mêmes. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Je veux dire que moi, je peux vous dire sincèrement...
Quand on regarde dans certains pays, parfois, on peut voir le futur de ce qui se passe dans le monde.
Je vais vous dire ça, si ça gêne, tant pis ce que je dis. Je veux dire qu'à une époque, les forces de gauche étaient très proches du milieu associatif de partout, du milieu entrepreneurial partout. Aujourd'hui, le Front National est très présent. Il a infiltré tout le monde associatif. Il faut dire les choses. Je veux dire, on n'en parle pas. Et après, on s'étonne. Et aujourd'hui, quand vous écoutez... Les gens, moi, que je côtoie, j'en côtoie, ils vous disent, avec le Front National, ils vont nous écouter. On en reparlera. Mais je veux dire, c'est une réalité, ça. C'est pour ça que j'aime bien dire le terrain.
La revue de presse européenne avec Courrier International.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Antonio.
Comment allez-vous ?
Mais très bien.
Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, également président de Reporters sans frontières, qui nous fait l'amitié d'être avec nous chaque semaine pour sa revue de presse. Alors, en écho au premier thème de discussion de cette émission, on a parlé des whistleblowers, les lanceurs d'alerte. On a notamment évoqué le cas des LuxLeaks au Luxembourg. Alors justement, évasion fiscale et ce procès, la morale contre la loi. C'est intéressant de voir ce qui s'en dit, ce que l'on peut lire dans la presse luxembourgeoise.
Oui, dans le journal Le Quotidien, qui a consacré plusieurs articles, et dont un article intéressant parce que il met effectivement, il oppose la morale et la loi. En tout cas, c'est le ressenti du journaliste après avoir couvert le procès, en expliquant bien que la morale peut-elle faire force de loi lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt général de millions de contribuables face aux intérêts particuliers de quelques centaines de multinationales. Voilà, le débat se pose assez vite comme ça. D'un côté, évidemment, l'envie de protéger ces lanceurs d'alerte, mais de l'autre, eh bien, le droit, rien que le droit, exit la morale, place à la loi, rien que la loi, écrit le journaliste. Alors, quand même, au passage, il signale quelque chose d'intéressant, c'est que, ironie de l'histoire, écrit-il, le Luxembourg est l'un des 5 pays européens à disposer d'une législation avancée sur les lanceurs d'alerte. Sauf que cette législation existe bien, mais elle ne peut pas protéger aujourd'hui ceux qui se trouvent dans le box des accusés, d'où effectivement le procureur et les 18 mois de prison qui sont requis. On aura donc maintenant le procès est en cours, enfin est terminé, toutes les audiences sont terminées, on aura le verdict courant juin.
Voilà, la justice luxembourgeoise qui a requis donc 18 mois de prison à l'encontre des deux anciens employés français du cabinet d'audit PwC à l'origine des LuxLeaks et ses fuites de documents, 30 000 pages de documents qui ont mis à jour les qui ont mis au jour les pratiques fiscales décriées au Grand-Duché. Entre voilà, ça reste moral quand même ce qu'a fait Antoine Deltour. Pas légal, mais moral.
Je pense que c'est tout à fait moral, Philippe en Lambert. Effet. Et je pense qu'il faut essayer, tant qu'on peut le faire, en tout cas, et comme législateur, de faire coïncider la législation avec les valeurs morales qui sont au fondement de l'Union européenne et de nos états de droit. Et ça n'est pas toujours le cas.
La France, vue d'Espagne, politique, la loi travail, Eric, une victoire à la Pyrrhus.
Oui, c'est El País qui donne un avis très très critique hein, sur ce qui est en train de se passer en France, et notamment le journaliste El País revient bien sur le recours au 49-3, et il estime que c'est un aveu de fragilité parlementaire, un triple camouflet adressé au couple de l'exécutif, à Hollande et Valls, camouflet à l'Assemblée nationale, camouflet dans la rue, camouflet face aux socialistes frondeurs, et tout ça, explique-t-il, eh bien, rend très invraisemblable toute nouvelle réforme. Pourquoi ? Parce que il y a eu ce passage en force. Et alors El País surnomme ce passage en force le décretazo, littéralement, ça veut dire le gros décret ou le décret coup de massue. Donc extrêmement critique à l'égard de l'exécutif français qui, selon le journal espagnol, eh bien affiche ses faiblesses, une faiblesse qui s'étale au grand jour.
Voilà, la France très critiquée à travers le monde pour le recours à nouveau au 49-3. Je me souviens, on a tous remarqué que même Frank Underwood, le célèbre président de la fiction House of Cards, qui a envoyé un tweet à Manuel Valls, le Premier ministre, en lui disant « Vous avez raison, la démocratie est tellement surévaluée, finalement, ça vaut pas grand-chose, la démocratie. »
C'est une forme de mépris contre les élus. Hein,
ce à quoi Manuel Valls a répondu avec une photo de Winston Churchill en disant que la démocratie, c'était
le moins
mauvais, en tout cas, des systèmes. Jean-Sébastien Lefebvre.
Dire que c'est un aveu de faiblesse, on lisait déjà avec la loi Macron, qui est aussi passée par 49-3. Donc, effectivement, ça fait deux fois que l'outil est utilisé. Après, ça montre aussi une situation complètement ubuesque de la vie politique française. Ça veut dire, on a une gauche qui n'a pas, on va dire, toutes ses troupes prêtes à voter le texte, mais on a aussi une droite qui, finalement, si elle était au pouvoir, en ferait une bonne partie de ce texte, mais qui refuse de le voter par principe parce que ça vient pas du bon côté.
Voilà.
Donc, résultat, on se retrouve à utiliser le 49-3, qui est un outil effectivement assez violent envers les élus et qui bloque tout débat et toute modification, tout amendement, etc. Et on a l'impression que le pays n'avance pas ou par à coup. Donc je trouve ça assez délétère comme climat où ce ne sont que des postures, que violence, que voilà. Puis on le voit, ça se traduit aussi dans la rue finalement.
Mais d'un autre côté, la France vue d'Allemagne, peut-être un autre son de cloche, Eric. Redonnez-nous de l'espoir.
Alors voilà, c'est un article qui sonne comme un petit réconfort, en tout cas pour François Hollande. Cet article, il vient quand même de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, quand même un bon journal réputé, sérieux, et qui dit quoi ? Qui dit que Hollande fait son Schröder. Alors voilà, tout l'article compare en fait le président français à l'ancien chancelier allemand, hein, Gerhard Schröder, qui avait, nous rappelle le journal, lui aussi imposé une réforme impopulaire du droit du travail. Alors, selon le journal allemand, eh bien, le président français garde le cap et il se pose comme héritier de l'ancien chancelier, qui lui aussi donc avait imposé cette réforme du droit du travail avec une refonte des indemnités chômage, un assouplissement du temps de travail, un abaissement du niveau des salaires. Voilà, donc on y est, c'est la comparaison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, puisque, rappelle le journal allemand, au début de son mandat, François Hollande rechignait encore à se présenter comme social-démocrate et à se rapprocher de Schröder. Cette fois-ci, la ressemblance est plus juste.
Philippe.
Le fait qu'un journal de droite allemand tresse des lauriers à François Hollande montre bien que la politique de ce gouvernement est une politique de droite. Ceci étant, je partage assez bien ce que Jean-Sébastien Lefebvre a dit sur une politique de la posture, parce que finalement, le contenu de ce projet de loi ne semble plus intéresser grand monde. Ceci étant, c'était une majorité rouge-verte, et donc je dois assumer cela, qui a fait les réformes du marché du travail en Allemagne. Et je pense justement que le gouvernement français aurait dû apprendre de cette erreur, parce que ça en était une. On a en fait provoqué un dumping social à l'intérieur de la zone euro, et donc l'Allemagne a essayé de booster sa compétitivité en abaissant ses coûts du travail, et donc de sorte booster donc ses exportations. Mais qui a payé le prix ? Eh bien, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes en Allemagne. On est près d'un quart de la population au seuil de pauvreté ou d'exclusion sociale, et tout ça dans la première économie de l'Union. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, les réformes qu'un gouvernement de gauche va pousser? J'ai comme un doute.
Didier Loisel.
Le contexte présent a pour un effet premier de mettre à la marge tous les jeunes. Et une société qui ne parie plus sur sa jeunesse, c'est une société qui va décliner.
Jean-Sébastien.
Et d'un point de vue plus politique, je ne sais pas si la comparaison Schröder-Hollande est une bonne nouvelle pour Hollande quand on voit ce qui est arrivé à Schröder aux élections suivantes, puisque ça a laissé place à Merkel et qui depuis est au pouvoir 11 ans, je crois.
Oui, mais François Hollande, il serait peut-être content de travailler pour Gazprom ensuite.
Je ne sais pas s'ils ont une place.
Royaume-Uni, non, Cameron n'est pas sur Tinder, Eric.
Oui, c'est un peu plus léger, mais c'est intéressant, vous allez voir. En fait, c'est la BBC qui a donné cette information, ou plutôt qui a démenti des rumeurs qui circulait, qui avait été lancé par The Times et qui est circulé dans toute la presse britannique comme quoi le Premier ministre aurait ouvert un compte sur Tinder. Tinder, c'est ce réseau social dédié aux rencontres. Et il aurait ouvert ce compte pour faire campagne anti-Brexit. Alors, la BBC a démenti. Nous sommes au regret de vous dire que Cameron n'est pas sur Tinder. Néanmoins, tout cela n'est pas totalement faux. Il y a quand même quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le fait qu'effectivement, David Cameron rencontre beaucoup aujourd'hui des réseaux sociaux. Il est représentant des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, BuzzFeed. Le but de ces rencontres, explique la BBC, le site de la BBC, était d'explorer de nouvelles stratégies pour encourager le vote des jeunes lors du référendum sur l'Union européenne. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a une énorme, du côté des jeunes, il y a beaucoup d'abstention et l'idée d'essayer de le faire revenir et pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux.
C'est juste s'il quitte l'Union européenne, il va avoir besoin de nouveaux partenaires, c'est peut-être ça Eric. Non.
Bon. Oui, je vous laisse, Yann-Anthony.
Je vous laisse à votre analyse. J'essaie de... Maya. D'où vient cette information? Est-ce que c'est une femme qui était sur Tinder et qui d'un coup a vu la tête de David Cameron et s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui?
C'est sans doute ça, je pense. Merci beaucoup, Eric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International. Merci, Maya Delabaume, bientôt patronne de la rédaction de Politico, hein, faut y croire.
Oui, dans les prochains jours.
Oh, avec votre passage dans cette émission, je pense, est remarqué. Je pense que ça ne fait que pas l'ombre d'un doute. Merci beaucoup Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. Merci Didier Loisel d'être venu nous rendre visite, un homme de terrain. Et vous êtes le président de la Coordination nationale des entreprises de taille humaine. Merci Philippe Lambert,
ce
eurodéputé vert, coprésident des Verts au Parlement européen. Merci beaucoup aux équipes du Parlement européen qui ont mis en son et en image cette émission. Merci au pétillant Alexandre Rougier qui a préparé cette émission comme toutes les autres. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Même jour, même heure. Bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.